voix nue. Cette semaine, Pierre Chassagneux rencontre Ken Loach. Ce soir, Citizen Ken.
Bonsoir Ken Loach.
Bonsoir, encore, pour la dernière fois.
Cette semaine sort en France votre 26e long métrage, Sorry We Missed You. Il traite de l'ubérisation de la société capitaliste, des conséquences que cela entraîne pour les travailleurs. Comment est née l'histoire de ce film ?
Paul et moi, Paul, l'auteur, Paul Laverty, lorsque nous tournions Daniel Blake, nous avons fait beaucoup de recherches. Il a découvert que beaucoup de personnes qui avaient besoin d'un soutien financier de l'État, eh bien, en fait, travaillaient. C'était des travailleurs pauvres. Beaucoup d'entre eux travaillaient sous contrat, avec un employeur qui ne donnait aucune sécurité de l'emploi. C'était des auto-entrepreneurs, comme on les appelle, et c'était à eux de prendre les risques que les employeurs prenaient auparavant. C'était à eux de payer la sécurité sociale, les congés payés, et il y a eu un accroissement énorme de l'insécurité au travail. Quelle est la conséquence? Pas seulement pour les employés, pour les travailleurs, mais pour leurs familles. Ils travaillent 12-14 heures par jour. Avec des familles. Et quel est l'effet? Et c'était le point de départ. Et Paul a composé quelques personnages, on en a parlé. Et c'est le film.
Hier, on parlait de la constance que vous avez dans vos rapports professionnels. On pourrait aussi parler de la constance dans vos convictions politiques présentes dans votre cinéma. Après plus de 50 ans de carrière, comment pensez-vous le cinéma aujourd'hui, Ken Loach ?
Je ne suis pas bon juge du cinéma d'aujourd'hui. Parce que quand on passe beaucoup de temps à travailler pour le cinéma, on développe tout un jeu d'idées et il faut tout le temps affiner ces idées, il faut les mettre au défi. Elles ne devraient pas être véritablement fixées une fois pour toutes pour qu'on n'ait pas besoin de les déraciner. Et chaque fois qu'on fait un film, je sens que je ne sais rien. Il faut commencer d'une position d'ignorance totale. Comment est-ce que nous allons faire ce film? Bien sûr, on utilise son expérience passée, on a certaines idées, mais il faut mettre au défi ces idées sans cesse. Je suis impatient avec les films d'aujourd'hui. Oui, je vois quelques merveilleux documentaires parfois. Le cinéma industriel, ça me fatigue. Les films d'action créés par un ordinateur et non pas d'une expérience réelle. Le genre de film où le cinéma célèbre la richesse sans qu'on n'explique jamais comment cette richesse a été créée. Des belles personnes dans des beaux endroits, qui font des choses, qui impliquent des armes à feu. Ça me fatigue à un point. Et bien sûr, il y a d'excellents réalisateurs, particulièrement en Europe, et dans d'autres pays aussi, et de l'Est, de la Chine, du Japon, d'Amérique latine, des réalisateurs brillants dont j'aime le travail. Mais on n'en voit pas beaucoup en Angleterre. Moi, le cinéma commercial, ça me fatigue. Les salles de cinéma sont propriétés de grandes multinationales, même les cinémas d'art. Très très peu d'indépendants. Très peu de cinémas indépendants qui programment leurs propres films indépendants. Ils sont programmés par des employés de multinationales. Ça limite le nombre de films que l'on peut voir, et c'est un grand dommage.
Dans un manifeste publié en juin 2014, vous citiez cette phrase du poète anglais William Blake, je cite, « Partout où l'argent s'immisce, il n'est plus possible de faire de l'art, mais la guerre seulement. » Vous êtes donc un cinéaste en guerre.
Oui,
vous savez, il y a une citation de Jim Allen, d'un des scénarios la seule lutte que je vais mener, quelqu'un qui était considéré comme un pacifiste durant la Première Guerre mondiale, la seule lutte que je veux mener, c'est la lutte des classes. C'est une lutte dans laquelle nous sommes tous engagés, que l'on soit dans un métier artistique ou pas.
Et au quotidien, quel citoyen êtes-vous, Ken Loach?
I don't know.
Je me heurte à la vie comme tout le monde. Je vois des gens qui travaillent de façon beaucoup plus efficace que moi. Le problème, c'est que il y a trop de choses qui exigent votre attention. Ce que je sens au sujet des cinéastes, vous savez, il y a des gens qui font des films sur les vies de gens ordinaires, mais quand on vient à la politique, ils s'en vont, ils disent « Ah non, non, moi je suis juste un cinéaste ». Eh ben non, quand vous prenez un sujet, vous avez une responsabilité. Vous ne pouvez pas vous en éloigner au moment où on arrive aux questions essentielles.
Et
moi, je sens une obligation totale d'être lié à cet aspect-là de la vie. Parce qu'on ne peut pas faire un film sur quelque chose qui vous importe et de dire « Ah ben, quelqu'un fera quelque chose sur le plan pratique et n'y avoir aucune responsabilité ». Non, ça serait irresponsable. Oui, je suis lié à la politique. Je vais à des réunions, je participe à des débats.
Et
il y a un engagement constant avec d'autres qui sont engagés de manière semblable, avec des écrivains, avec des simples militants. Et dire généreusement aux gens qui vous demandent de l'aide. C'est plus facile quand on fait un film parce que j'ai une bonne excuse. Je peux dire, je suis désolé, je ne peux pas vous aider aujourd'hui parce qu'on est en train de tourner un film. Mais j'ai tendance à être trop occupé. Et puis, il faut soutenir l'équipe de football, il faut prendre des billets pour voir des matchs, être très en colère quand on perd et tout ça. J'ai une très grande famille avec beaucoup de petits-enfants. Il n'y a jamais suffisamment de temps. Le temps, c'est l'ennemi.
Dans la seconde partie de votre À voix nue, nous avons évoqué la période thatchérienne de l'Angleterre. Quel regard vous portez sur la séquence politique qui lui a succédé, celle de Tony Blair ?
Margaret Thatcher a dit que sa plus grande création, c'était Tony Blair. Ça voulait dire que Tony Blair a réalisé sa politique, même s'il a été élu par un parti qui était censé être à gauche, le Parti travailliste. Mais Tony Blair était très très à droite. Il soutenait les grandes entreprises. Le slogan du Labour, c'était travailliste, ça signifie entreprise. Je pensais que ça voulait dire se retrousser les manches et travailler, mais non, il voulait dire les grandes entreprises. Il s'est battu dans une guerre illégale à la demande de George Bush, qui était pour l'intérêt des grandes entreprises américaines, du capitalisme international, responsable de la mort de millions de personnes en Irak, des monstres. Des politiciens coupables, aussi coupables qu'un politicien peut l'être pour la perte de vie humaine. Maintenant, il est présenté à la télé comme étant un sage, un homme d'État sage. Mais cette période de l'histoire, Blair, Gordon Brown, était honteuse. Et la droite du Parti travailliste, qui cherchait un dirigeant, a fait une erreur absurde. Parce que, simplement pour faire semblant de représenter toutes les opinions, on va permettre à un homme de gauche d'être à la tête du parti. On va le donner nos votes aux gros parlementaires. Ils ont dit plus, on va permettre à d'autres de nous rejoindre au Parti travailliste pour quelques livres sterling. Et pour leur plus grande surprise et leur horreur, et pour le plaisir de tous les autres, les gens voulaient un véritable candidat de gauche, qui était Jeremy Corbyn. Lui et John MacDonald ont dépassé les autres, ont déposé un programme sur la propriété commune, sur l'investissement public, sur une nouvelle industrie verte dans des régions désolées, dans les vieilles régions minières dont on a parlé précédemment, un programme radical, social-démocrate, pas un programme marxiste, comme disent les gens de droite qui ne comprennent rien à Marx le disent. J'aimerais bien que ça soit marxiste, mais bon. Mais un programme radical, véritablement radical, qui transformerait la société et mènerait à d'autres transformations, parce que ça renforcerait la confiance de la classe ouvrière, que la classe ouvrière peut organiser, peut contrôler, que le monde pourrait travailler pour leur intérêt, pas simplement pour les grandes entreprises. Et depuis, Corbyn est sous l'attaque constante des politiciens de droite, de la presse, de l'audiovisuel, qui fait absolument tout pour l'attaquer, pour dire que c'est un raciste. C'est incroyable, cet homme a dédié sa vie à lutter contre le racisme. Mais le pire, la majorité des membres du Parti travailliste au Parlement, qui existait déjà à l'époque de Tony Blair, en fait, leur intention est de détruire Corbyn. Et ma seule critique de Jeremy Corbyn, c'est que il n'a pas suggéré la création d'un parti politique qui représenterait la majeure partie des membres que nous sommes, parce que sous la direction de Jeremy Corbyn, il y a plus d'un 500 000 de membres, le plus grand parti de gauche en Europe occidentale. C'est une leçon pour les vieux partis sociaux-démocrates. Allez à gauche, vous pourriez réussir. Allez à gauche, mais sérieusement à gauche. Et les gens vont voir que vous représentez leur colère, leur mécontentement, leur souffrance, leur incapacité à contrôler leur vie, leur incapacité à trouver des emplois pérennes, et leur aliénation de la société. Qu'ils n'ont pas à se tourner vers Le Pen et l'extrême droite, qu'il y a une gauche. C'est une leçon, c'est la leçon de la victoire de Corbyn. Il y a une gauche, et il faut être vraiment sans égard pour défendre cela, parce que la droite va vous attaquer. Il ne joue pas selon les règles. En Angleterre, on dit « il ne joue pas au cricket ».
Et d'ailleurs, justement, pensez-vous que Jeremy Corbyn puisse être élu un jour ?
Mais tout à fait, il peut être élu. Nous avons maintenant l'extrême droite au pouvoir. Il pourrait être élu, à mon avis, il pourrait être élu sur son programme social. Parce que le programme social correspond à ce à quoi les gens ont besoin de voir. Ils ont besoin d'un travail simple, ils ont besoin d'un service de santé qui ne soit pas propriété des grandes entreprises. Ils veulent un travail digne, où ils puissent rentrer à la maison et regarder leurs enfants dans les yeux. Ils ne veulent pas d'une société avec ces inégalités énormes, avec une pauvreté désespérante. On a quoi maintenant ? 2 000, 3 000 banques alimentaires ? Et l'année dernière, il y a eu probablement 2 millions de colis alimentaires ont été distribués. 500 000 distribués à des enfants. Ces enfants n'auraient pas pu manger si vous et moi n'avions pas placé une boîte de conserve dans un réceptacle à cet effet. 500 000 de colis alimentaires dans notre pays. Et les gens se rendent compte qu'on ne peut pas tolérer cela. Et seul un programme de gauche peut s'occuper de ça. La droite prétend que ça n'existe pas. La droite dit, ah, n'est-ce pas merveilleux que les gens donnent aux sociétés de bienfaisance? C'est leur monde. Notre monde est différent. Il est basé sur l'égalité, la justice sociale, la propriété partagée. Le respect mutuel et une économie qui fonctionne pour, eh bien, c'est pas le cas. C'est pour cela que Corbyn peut être élu. Seulement si on lutte pour cela et si on peut être entendu par la presse, la BBC et tout l'establishment de l'audiovisuel.
Depuis les années 80, vous filmez dans vos documentaires et vos fictions la classe ouvrière britannique. Qu'est-ce que c'est pour vous en 2019, la classe ouvrière ?
La classe ouvrière est très fragmentée. Elle est en colère. Il y a différents niveaux de la classe ouvrière. Certaines personnes ne se considèrent pas comme étant de la classe ouvrière. Par exemple, les petits cadres qui travaillent pour un salaire, ils sont payés chaque mois et pas chaque semaine, mais en fait, ils sont de la classe ouvrière. Avec l'utilisation des nouvelles technologies, ils sont au téléphone 24 heures par jour. Ils ne finissent pas leur travail quand ils rentrent chez eux. La pression de cette vie sur les cadres, les petits cadres, est intense. C'est ceux qui effectuent les travaux les moins bien payés, les chauffeurs, les infirmiers, les gens qui s'occupent des malades. Ce sont des gens qui n'ont pas de sécurité de l'emploi. Leur travail peut être arrêté comme on pousse sur un interrupteur. Ce sont des gens qui sont fatigués, épuisés, en colère, tentent d'avoir une vie, d'avoir une famille. Il y a une crise du logement massive. Les gens sentent que leur vie s'écroule, ils se sentent détruits, sans soutien. Et c'est là qu'ils se tournent vers des solutions simples. Ils font porter la faute sur les immigrés, les étrangers, l'Union européenne, faire porter la faute sur quelqu'un. Et le truc de l'establishment de la droite, c'est de divertir la critique du système. Et ce que Corbyn fait, c'est non, c'est le système qui est en faute. Et faire passer ce message, c'est difficile. Oui, on peut le faire, mais c'est un grand effort. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter d'être cinéaste.
Dans votre propre pays, Ken Loach, vous êtes plus ignoré que Oni. Mais un journaliste s'est quand même posé la question de pourquoi vous détestiez autant votre pays. Dans un article du Daily Mail, daté du 30 mai 2006, l'article faisait référence à votre première palme d'or, obtenue pour Le Vent se lève. Quelles sont justement vos relations avec la presse et la critique ?
La presse, vous savez, elle parle pour les riches. La presse, c'est la propriété des riches. Le Daily Mail, c'est la propriété d'une famille Rothermer, qu'il possédait déjà en 1933, lorsque le Daily Mail a mis à sa une « Hurrah pour les chemises noires ». Il soutenait Hitler lorsqu'il a commencé ses pogroms contre les Juifs, quand il était déjà connu en tant que raciste. Ils ont soutenu Hitler. Chaque fois que je vois un journaliste du Daily Mail, je lui rappelle « Vous êtes le journal qui soutenait Hitler ». Oui, c'est ça la presse. C'est ce qu'ils font. Il y a quelques journaux libéraux, soft, démocrates, mais ils ne soutiennent pas Corbyn. Ils soutiennent le parti travailliste à l'ancienne. Ils ne soutiennent pas Corbyn. La BBC, c'est l'establishment, c'est l'État. Et parle pour l'État. Bien sûr, il y a des gens bien qui travaillent pour ces organes de presse, mais la hiérarchie est absolument déterminée de façon extrêmement discrète, à la façon britannique bourgeoise, de façon très élégante. Les médias feront tout pour que Corbyn ne soit pas élu, sans le dire ouvertement. Voilà, c'est ça ma relation avec la presse.
La question irlandaise, Ken Loach, c'est l'un des sujets principaux d'au moins trois de vos films. Hidden Agenda, Le Vent se lève, mais aussi Jimmy's Hall. Quand on évoque cette question-là au Royaume-Uni aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser au futur Brexit et à ce no deal qui se profilerait. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La raison pour laquelle Johnson ne veut pas d'accord, ils ne veulent pas, l'extrême droite ne veut pas d'accord, parce que ça voudra dire qu'il n'y aura pas d'accords commerciaux avec l'Europe, auxquels ils devraient se plier, donc qu'ils pourraient passer des accords principalement avec les États-Unis. Et les États-Unis, les grandes entreprises vont exiger un travail bon marché et un accès au marché pour leurs propres produits. Ça va torpiller les produits européens et nos propres produits locaux. C'est Trump qui le veut. Et Johnson, c'est un mini-Trump, il le veut. Et c'est ce que veut l'extrême droite. Ils veulent un capitalisme pur et dur, où le travail irait aux gens qui mangeraient de l'herbe au lieu de recevoir un salaire. C'est ça qu'ils cherchent. La classe dirigeante libérale veut la stabilité de l'Union européenne. L'Union européenne met en avant le profit. C'est un club pour les grandes entreprises en tant que modèle économique. C'est ça la tendance de la partie la plus libérale de la classe dirigeante. C'est là que se trouve la fêlure de la droite. Ce que la gauche veut ou devrait vouloir. Oui, c'est une Europe, mais une Europe différente. Moi, je suggérerais de réécrire les documents fondamentaux pour que l'Europe ne soit pas basée sur le libre-échange, mais sur la propriété collective, sur des coopératives où l'économie fonctionnerait pour le bien des gens et non pour le profit. Et pour cela, il faut faire progresser la situation économique des différents pays de l'Europe pour qu'on soit comparable. Et les gens, à ce moment-là, déménageront pour l'expérience, pour l'éducation. Ils n'auront pas besoin de déménager pour fournir une existence décente à leur famille. C'est ce qui a fait les grandes migrations d'Est en Ouest de l'Europe. C'est ces migrations qui ont donné naissance au racisme et à tous les problèmes que nous avons actuellement. Pour le court terme, vous savez, moi j'ai voté en faveur de l'Europe, avec le cœur lourd, parce que je veux une Europe différente. Et je crois que c'est la position du Parti travailliste, de la gauche du Parti travailliste sous la direction de Corbyn. Mais nous avons des grandes réserves sur l'Union européenne. Il faut restructurer notre économie et l'Union européenne pourrait s'y opposer. C'est une situation difficile donc.
À titre personnel, parmi mes films préférés, il y a Bread and Roses qui est sorti en 2000. Il y est question des difficultés de Maya, une femme de ménage immigrée mexicaine sans papier à Los Angeles. Dans ce film, je trouve qu'il y a une scène absolument bouleversante, selon moi parmi les plus bouleversantes de votre cinéma, où Maya réalise ce qu'a dû faire Rosa, sa sœur, pour s'intégrer dans cette société extrêmement violente et ce sans faire de bruit. J'aimerais que vous me racontiez cette scène.
Yes, I mean the two sisters from Mexico.
Les deux sœurs sont mexicaines. Elles sont femmes de ménage dans des bureaux. Maya est la jeune, la plus jeune. Elle est venue rejoindre sa sœur. Et Maya est aventureuse. Elle fait partie d'un groupe de femmes de ménage qui se mettent en grève parce qu'elles sont sous-payées. Et la grève est vendue par la sœur aînée qui donnent le nom des meneuses aux employeurs et perdent leur emploi. Et Maya fait face à sa sœur et dit « Pourquoi t'as fait ça ?» Et quand on préparait la scène, on avait fait toutes les recherches, et bon, c'était la répétition avec les deux sœurs, et la sœur aînée, très bien jouée par Elpidia Carrillo, eh bien, elle avait sa propre histoire, elle avait quitté le Mexique pour aller aux États-Unis et pour avoir un emploi, elle s'était arrêtée à la frontière pour gagner de l'argent. Comment elle a eu de l'argent? En devenant prostituée. Quand elle a eu assez d'argent, elle a traversé la frontière. Elle a eu un emploi. Pour avoir l'emploi, elle avait couché avec l'employeur. Elle a envoyé de l'argent à sa famille au Mexique. Et cet argent, elle le gagnait par la prostitution. Elle ne l'avait jamais raconté à qui que ce soit. Et pendant que, avec Elpidia, lorsqu'on a travaillé là-dessus, Elpidia avait vu cela, elle est mexicaine. Elle essayait de donner la proximité à ce personnage, le dégoût qu'elle a ressenti à devoir le faire. Maya ne le savait pas du tout. Pilar Padilla jouait Maya. Elle ne le savait pas du tout. Jusqu'à ce qu'il l'entende dans la scène. Maya revient, elle fait face à Elpidia Carrillo. Et elle se met très en colère. On a perdu notre emploi, comment est-ce que tu as pu faire une chose comme ça? J'ai honte de toi. Elpidia lui dit, il faut que je te raconte quelque chose. Elle lui dit comment elle a fait la pute, comment sa famille a pu se nourrir parce qu'elle avait vendu son corps. Et la façon dont Maya a obtenu un emploi parce que sa sœur aînée avait couché avec l'employeur qui lui a donné un emploi. et qu'elle avait appris à s'occuper de sa famille et tout cela. Elle ne pouvait pas risquer de perdre son emploi, c'est pour ça qu'elle l'avait fait. Et nous, nous pensions que ça serait un point de rupture entre les deux sœurs, que Maya allait partir. C'était près de la fin du film, on avait imaginé qu'elle irait habiter ailleurs avec un ami. Au lieu de cela, elle s'est effondrée en larmes. Et c'est ce qui les a rapprochés. Donc plutôt que de les diviser, on les a rapprochés. Et quand je disais l'autre jour que l'instinct des acteurs, c'est la chose la plus importante que peut avoir un réalisateur. Leur instinct était juste, et ce que nous, nous avions imaginé, était faux. Donc on a changé un petit peu les scènes suivantes. Parce que c'est ce choc sur le visage de Maya, la compassion pour sa sœur, qui la submerge.
Avant de se quitter, Ken Loach, et peut-être d'une manière un peu plus légère, j'aimerais que vous m'expliquiez le rapport que vous entretenez avec les camionnettes, les estafettes, ce moyen de transport qui jalonne quasiment toute votre filmographie, de My Name is Joe à Raining Stones, en passant par Carla's Song, It's a Free World, et La Part des Anges. Je trouve qu'à chaque fois, à l'intérieur de ces camionnettes, vos personnages ne se contentent pas d'aller à un point A à un point B, mais débattent. Et là encore, le collectif avant tout, Ken Loach.
La camionnette, c'est le moyen de transport de la classe ouvrière. Tout artisan a une camionnette pour mettre ses outils, ou un minibus si vous voulez emmener un groupe, si vous voulez emmener une équipe de football, vous les faites monter dans une camionnette. Et puis les camionnettes sont inconfortables, ce qui est bien. J'aimerais bien gagner une livre sterling chaque fois qu'on filme dans une camionnette et chaque fois qu'on prend des bleus. Et en fait, on va toujours trop loin pour l'ingé son. En fait, c'est un espace intime. Quand on est dans une camionnette, on est toujours trop près de l'ingénieur du son ou de la personne qui fait le point à la caméra. Mais c'est une bonne chose, les camionnettes. C'est le mode de transport de la classe ouvrière.
Merci beaucoup, Ken Loach, d'avoir passé toute cette semaine avec nous.
Merci à vous. C'est la radio, on ne peut pas le voir, le signe de ça. Qu'est-ce que c'est?
Le point levé.
Bon, au revoir. À bientôt.
De cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Ken Loach. À voix nue. Traduction Michel Zlotowski. Réalisation Marie Placet. Prise de son et mixage Frédéric Quérault, Éric Boisset. Coordination Sandrine Trainer. Attachée de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.